بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre cinquième assise dans l'étude de le livre de la purification dans Umdat al-Ahkam avec l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Et nous arrivons au troisième chapitre, qui est le chapitre du Siwak. Troisième chapitre dans le livre de la purification. Le siwak, disent-ils, l'outil avec lequel on se brosse les dents, comme le bois d'arak ou autre. On peut utiliser l'olivier, on peut utiliser d'autres bois qui sont tendres, n'importe quel bois. Et le meilleur, c'est l'arak. Comme siwak, disent aussi l'acte de brossage, qui est le fait de frotter la bouche avec siwak pour nettoyer les dents, la langue et la gencive en même temps. Siwak est une purification de la bouche. C'est un acte que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه: السواك يطلق على الآلة التي يتسوك بها كالعود من الأراك وغيره، ويطلق على الفعل الذي هو التسوك، وهو دلك الفم بالمسواك لتنظيف الأسنان واللسان واللثة. فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نأتي إلى الحديث الأول في الباب، وهو الحديث 17 في كتاب الطهارة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Et donc on arrive au premier hadith dans ce chapitre, qui est le 17e hadith dans le livre de la purification. Selon Abu Huraira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré, le prophète d'Allah a dit: si je n'avais pas craint d'imposer une difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné l'usage du siwak lors de chaque prière. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. يقول رحمة الله عليه الشيخ العثيمين موضوع الحديث بيان حكم السواك عن الصلاة، وجاء إلى شرح الكلمات فقال: لولا حرف امتناع لوجود، أي أنها تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر. ففي هذا الحديث تدل على امتناع إلزام النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة عليهم بذلك. أشق أتعب وأثقل أمتي سبق معناها. لأمرتهم أي لألزمتهم بالسواك أي بالتسوك عند كل صلاة أي عند فعل كل صلاة. ويقول في الشرح الإجمالي: الصلاة ذات شأن كبير، لأنها صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، لذلك وجبت لها الطهارة من الأحداث، وكان شرطا في صحتها، ومن تكميل الطهارة بالسواك، لأنه تنظيف للفم مما علق به من أوساخ قد تحمل روائح كريهة، ولذا اعتنى الشارع به عند الصلاة. فها هو أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لولا خوف وجود المشقة على أمته لأمرهم أمرا لازما أن يتسوكوا عند كل صلاة فريضة أو نافلة، لما فيه من تنظيف الفم وتكميل الطهارة. Et donc le sujet de ce hadith, c'est la clarification sur le statut du siwak pour la prière. Le sens général du hadith, la prière, Cheikh Rahmatullah Ali dit, la prière a une grande importance, car c'est la liaison entre le soumis et son souverain. C'est pour ça qu'il est obligatoire de se purifier pour accomplir la prière chaque fois que la purification a été annulée par l'un de ses annulatifs, et que la purification, est l'une des conditions de la prière. Et pour parfaire cette purification, il est préférable de se nettoyer la bouche par le siwak pour se débarrasser des mauvaises odeurs. C'est pour ça que la législation l'a recommandé pour chaque prière, d'une recommandation qui n'atteint pas le degré de l'obligation. Voilà Abu Huraira radiallahu anhu arda qui nous annonce du prophète alayhi salatu salam que si il ne craignait pas la difficulté pour sa communauté, il leur aurait ordonné le siwak pour chaque prière obligatoire ou surrogatoire, car il y a dans cet acte le nettoyage de la bouche et ça complète la purification. ونأتي إلى دروس الحديث وفوائد الحديث. يقول رحمه الله: أولا من دروس تأكد التسوك عند فعل كل صلاة فريضة أو نافلة حتى صلاة الجنازة. Il dit rahmatullah alayhi, dans les leçons à retenir de ce hadith, la première leçon, la recommandation appuyée, mais qui n'atteint pas le degré de l'obligation. La recommandation appuyée du siwak pour chaque prière, qu'il soit obligatoire ou surrogatoire, même la prière funéraire. ثانيا عموم الحديث يشمل صلاة الصائم بعد الزوال فيتأكد في حق الصائم أن يستاك عند كل صلاة ولو بعد الزوال كصلاة الظهر والعصر. La deuxième leçon, le sens général, englobe la prière du jeûneur même après le zénith. C'est-à-dire que le jeûneur, donc il est recommandé au jeûneur aussi d'utiliser le siwak même pour la prière du dhuhr et du asr. Cheikh, il a attiré l'attention sur ce point parce qu'il y a certains de la masse, ils disent qu'après après zénith, tu n'as pas le droit de te brosser les dents ou quoi que ce soit. La abadan. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sens du hadith, il est général, donc ça englobe toutes les prières et les jeûneurs rentrent dans cette généralité. Il leur est permis de se frotter ou se chausser les dents avec siwak ou autre pendant toutes les prières. Ceci est du même du préférable à faire. ثالثا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته ورأفته بهم حيث لا يلزمهم بما يخاف منه المشقة. La troisième leçon à retenir ici, dit Cheikh Rahmatullah alayh, la compassion du prophète alayhi salatu salam pour sa communauté. Il ne leur impose pas ce qui va leur être difficile, et ce qui va leur ramener de la gêne. Abadan. Rabi'an, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha amara bi shay'in fa huwa lazim illa an yadulla dalil ala annahu tatawwu'. La quatrième leçon, c'est que quand le prophète alayhi salam ordonne quelque chose, c'est qu'il est du domaine de l'obligatoire, sauf s'il y a un argument qui vient lui donner le sortir de l'obligation et le mettre du domaine du surrogatoire. Donc quand il ordonne quelque chose, c'est obligatoire, sauf s'il y a quelque chose qui vient sortir. Une autre preuve qui va sortir cette obligation et qui va la descendre au degré du surrogatoire. الأمر الخامس الفائدة الخامسة تعظيم شأن الصلاة. La cinquième leçon dans le hadith, la révérence due à la salat et l'importance due à la salat. وهنا يقول الشيخ تنبيه وقع هذا الحديث في بعض النسخ هكذا مع كل وضوء عند كل صلاة وزيادة مع كل وضوء لم يروها البخاري في حديث المسند ولا مسلم رحمهم الله لكن رواها الإمام مالك والإمام أحمد والنسائي. Il attire notre attention sur une phrase On garde la minutie des hommes de science et que rien n'échappe dans les textes. Ici, l'intention sur, il dit dans d'autres copies du livre de l'Umda, le hadith est cité avec cette formule, avec chaque odo et à chaque prière. C'est-à-dire, siwak, avec chaque odo et à chaque prière. Cette l'expression avec chaque odo n'est pas rapportée par le Bukhari dans un hadith avec une chaîne de transmission. Ni chez l'imam muslim non plus. Mais il est rapporté par l'imam Malik et par l'imam Ahmed et par Nasa'i rahimahullah ta'ala. Tu vois que rien n'échappe aux hommes de science dans les textes. Et que les textes, tu vois que des fois la personne peut y dire pourquoi cette répétition de texte sur le même sujet. En réalité, ce n'est pas une répétition. C'est quelque chose de plus qui vient se rajouter. Ou c'est un éclaircissement de plus que le hadith rajouté va donner à la situation au sujet. ونأتي إلى الحديث الثاني في الباب وهو الثامن عشر في كتاب الطهارة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك. Le deuxième hadith du chapitre, qui est le 18e dans le livre de la purification, le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman. Selon Hudayfa, lorsque le prophète alayhi salam se levait la nuit pour prier, il se frottait l'intérieur de la bouche avec le siwak. Le hadith il est muttafaq alayh. Regarde la différence ici du texte et du contenu du texte. الشرح يقول رحمه الله الراوي حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي رضي الله عنه أسلم هو وأبوه وأراد شهود بدر فصدهما المشركون وشهدا غزوة أحد فقتل المسلمين أباه لم يعرفوه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين روى كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون إلى يوم قيام الساعة وكان يسمى صاحب السر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين الذين أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من تبوك شهد حذيفة غزوة الخندق وما بعدها وفتوح العراق واستعمله عمر على المدائن فلم يزل فيها حتى مات سنة 36 رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. Le rapporteur du hadith ici c'est Hudayfa ibn al-Yaman ibn Jabir al-Absi que Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Hudayfa est rentré dans l'islam avec son père, tous les deux voulaient assister et participer à la bataille de Badr. Les polythéistes ne les ont pas laissés passer. Ils ont détourné. Ils les ont bloqués, ils ne les ont pas laissés passer pour participer à cette bataille. Mais Hudayfa ainsi que son père ont assisté à la bataille de Houd. Le père de Hudayfa a été tué par erreur par les musulmans. Ils ne le connaissaient pas. Hudayfa a laissé le prix du sang de son père comme sadaqa pour les musulmans. Radiallahu anhu arda. Il a rapporté beaucoup de hadiths du messager alayhi salatu salam. Et il a dit, radiallahu anhu arda, que le messager alayhi salatu salam m'a parlé de ce qui a été dans le passé et ce qui va être dans le futur jusqu'au jour de la résurrection. Il a été nommé l'homme du secret du prophète alayhi salatu salam, car le prophète alayhi salatu salam lui a cité les noms des hypocrites qui complotaient contre le prophète alayhi salatu salam lors de son retour de la bataille du Tabouk. Hudayfa a participé à la bataille des tranchées et les autres batailles après et toutes les batailles qui l'ont suivi, comme il a participé à la conquête de l'Irak. Omar l'a utilisé comme gouverneur sur le Mada'in qui se trouve au sud-est de l'Irak. Il y est resté, radiyallahu anhu arda, jusqu'à sa mort. موضوع الحديث بيان حكم السواك عند القيام من النوم. Le sujet du hadith, il est différent du premier. Le statut du siwak quand on se réveille du sommeil. Là-bas, c'est avec pour chaque prière. Ici, c'est quand on se réveille du sommeil. شرح الكلمات إذا قام من الليل أي من نوم الليل للصلاة. يشوص يدلك أو ينقي أو يغسل مع الدلك فاه فمه بالسواك بالمسواك. الشرح الإجمالي النوم يتغير به الفم فيحتاج إلى تنظيفه وتطهيره. وفي هذا الحديث يحدث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل للتهجد يدلك فمه بالمسواك تنظيفا له وتطيبا لرائحته ولتكون صلاته على أكمل الوجوه من النظافة. Et donc le sens général du hadith, le sommeil change la laine. Donc quand on se réveille, on a besoin de nettoyer la bouche et de la purifier. Dans le hadith, Hudayfa annonce que quand le prophète alayhi salatu wasalam se réveille la nuit pour les prières nocturnes, il brosse la bouche avec le miswak pour purifier la bouche et lui procurer une bonne odeur pour que sa prière s'accomplisse par une purification complète. Fawaid al-hadith awwalan مشروعية التسوق عند القيام من النوم والمبالغة فيه لا سيما لمن يريد الصلاة. La première des leçons à retenir ici, c'est la recommandation du brossage de la bouche au moment de se réveiller, et ça devient encore plus recommandé quand la personne veut accomplir la prière. Et là, il lui demandait de le faire encore plus fort, de nettoyer la bouche fortement. ثانيا التسوق عند تغير رائحة الفم قياسا على تغير رائحته بالنوم. Donc aussi ce hadith nous apprend comme quoi chaque fois que la laine a changé de la personne, peu importe avec quoi il a échangé, il doit être purifié, la bouche doit être purifiée. Par analogie sur le sommeil change la laine, et donc quand la laine devient mauvais, c'est la personne, il faut qu'il se nettoie la bouche pour changer, par analogie à la purification qui est faite après le sommeil. Thalithan, inayatu shari'ati l'islamiyati bin nadafa. La troisième leçon, l'importance donnée par la législation à la purification. Rabi'an anna tasawwuka fil fami kulli fayashmalu al-asnan wal-latha wal-lisan. Et donc le brossage ici, le nettoyage, c'est pour toute la bouche, les dents, la langue et la gencive. Le hadith al-thalith. عن عائشة رضي الله عنها وهو التاسع عشر في الباب في كتاب الطهارة والثالث في باب السواك. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته ونقضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. Et donc, le hadith de Aïcha, qui est le troisième dans le chapitre du Siwak, le 19e dans le livre de la purification, Aïcha rapporte qu'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr rentra chez le prophète alayhi salam en se frottant les dents avec un siwak frais, alors que celui-ci, c'est-à-dire le prophète, se reposait sur ma poitrine. Le prophète regarda le siwak avec insistance, le siwak qui était dans la bouche de Abd al-Rahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu wa arda. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le regardait avec insistance. Aïcha dit, je saisis le siwak, j'en coupe l'extrémité, puis après l'avoir mâché et nettoyé, je le présentai au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète se frotta les dents comme jamais je l'avais vu faire auparavant. Puis leva sa main vers le ciel ou son doigt vers le ciel en disant vers la plus haute compagnie. À trois reprises, il a répété cette phrase, il a rafiq al-a'la, fi rafiq al-a'la. Puis son âme est sortie, salawatu rabbi wa salamu alayhi, le hadith il a rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Après cela, Aïcha avait l'habitude de dire, le prophète alayhi salatu wassalam est mort entre ma poitrine et mon menton. Dans une autre version, je le vais regarder le siwak et j'ai compris qu'il aimerait l'utiliser. Je lui demandais, veux-tu que je te le donne? Il me répondit oui d'un signe de la tête. Cette version est celle de Bukhari rahimahullah. Et Muslim en a cité une similaire aussi. موضوع الحديث بيان حكم السواك كل وقت والتسوك بسواك غيره. Donc le sens du hadith ici, le sujet du hadith ici, nous montre le statut du fait d'utiliser le siwak à n'importe quel moment, et comme quoi il est permis aussi d'utiliser le siwak d'autrui, de quelqu'un d'autre, quand on ne craint pas la contagion d'une maladie. Ah, comme il a dit Cheikh Al-Taymi rahmatullah alayh. دخل عبد الرحمن بن ابي بكر في بيت عائشه رضي الله عنها. وعبد الرحمن بن ابي بكر شقيق عائشه رضي الله عنهما، اسلم قبل الفتح قبيل الفتح وقيل يوم الفتح، وحسن اسلامه ومات في مكه سنه 58. دونك Abd al-Rahman ibn Awf, il est rentré où? Dans l'appartement, dans la chambre de Aïcha radiallahu anha, qui est sa sœur, car Abd al-Rahman, c'est le fils de Abu Bakr Siddiq. Et Abd al-Rahman est rentré dans l'islam un peu avant la conquête de la Mecque. Il a été dit qu'il n'est rentré dans l'islam que le jour de la conquête de la Mecque. Sa soumission était bonne. Et il est mort à la Mecque en l'an 58 de l'Hijra radiallahu anhu arda. أما شرح الكلمات مسندته إلى صدري رافعته إليه ليعتمد عليه، والضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواك مسواك، وفي بعض رواية البخاري أنه من الجريد الأخضر يستن به يستاك به، فأبده بصره مد إليه بصره وأطال النظر، قدمته بالضاد علكته بأطراف أسناني، وفي رواية قسمته بالصاد أي كسرته، فلعله كسرت طرفه ثم علكته بأطراف أسنانها ليلين، نقضته فرقته ليسقط ما فيه من قشور ونحوها، طيبته جعلته طيبا صالحا للتسوك به، فما عدا أن فرغ رفع فما عدا أن فرغ رفع عدا جاوز وفرغ انتهى، والمعنى ما جاوز فراغه من التسوك حتى رفع، أي إنه بادر بذلك، رفع يده أو إصبعه أو للشك من الراوي في الرفيق الأعلى أي الرفقاء الأعلون وهم أهل الجنة، وهو متعلق بمحذوف، والتقدير اجعلني في الرفيق الأعلى، قضى مات، حاقنتي الحاقنة التي في النحر، ذاقنتي أعلى الحلقوم، ينظر إليه أي إلى عبد الرحمن أو المسواك، أشار برأسي أو مأ به، النعم أن تفسيري، ونعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. الشرح الإجمالي: تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن شقيقها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وقد أسندته إلى صدرها وهو في سياق الانتقال إلى الرفيق الأعلى، وكان مع عبد الرحمن سواك رطب يستاك به، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظر المحب له وأطال النظر، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يحبه، فاستفهمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذه له، فأجاب بالإشارة إما لصعوبة النطق أو لاشتغاله بالذكر والدعاء، نعم خذيه، فأخذته رضي الله عنها وكسرت طرفه المستعمل، ثم قدمته بطرف أسنانها ولينته حتى صار صالحا للاستعمال، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به أحسن استياك ليلاقي ربه على أكمل حال من الطهارة والنظافة، وفور انتهائه من السواك رفع يده أو إصبعه يسأل أو إصبعه يسأل الله تعالى أن يجعله مع الرفيق الأعلى في الجنة، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت عائشة رضي الله عنها تتحدث أن الله أنعم عليها، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها الذي كان لها وفي بيتها وبين حاقنتها وذاقنتها في حجرها رضي الله عنها، وأن الله جمع بين ريقها وريقه عند موته، فصلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها وأرضاها. إذنك le son général du hadith, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, nous annonce que son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr est rentré chez le prophète alayhi salam dans la chambre de Aïcha. Le prophète était adossé sur la poitrine de celle-ci au moment où il était dans l'agonie de la mort avant la sortie de son âme, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Abdurrahman avait un siwak frais avec lequel il se chaussait les dents. Il est dit dans une version de l'Imam Bukhari que c'était du palmier, c'était de la palme du palmier. Hein? Et donc, cela nous montre comme quoi le siwak peut se faire avec n'importe quel bois qui est tendre pour la bouche et qui ne va pas blesser la gencive et blesser la personne. Il y a des personnes, ils utilisent l'olivier. Ils le rendent tendre, ils le massent très bien, ils le rendent tendre. Hein? Et d'autres bois aussi sont utilisés, qui sont un petit peu, une fois que tu le coupes et que tu les écrases avec le dent, ils donnent des petits poils comme ça, et ça devient tendre, ça permet, comme leur église aussi, il est dur, mais il est tendre au bout, tu peux te chausser avec, et beaucoup d'autres bois. Hein? Le meilleur, c'est l'arak. Le meilleur, c'est l'arak frais. Et donc, Aïcha annonce que son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr est rentré chez le prophète alayhi salatu salam dans sa chambre, dans la chambre de Aïcha. Le prophète était adossé sur la poitrine du silsi au moment de l'agonie de la mort avant la sortie de son âme alayhi salatu salam. Abdurrahman avait un siwak frais avec lequel il se chaussait les dents. Le prophète regardait le siwak du regard de celui qui en a envie, et son regard est resté fixé sur le siwak. À long moment, Aïcha radiallahu anha a capté qu'il aimerait la voir et il l'a questionné pour le lui prendre. Le messager lui a répondu par un signe de la tête. Soit parce que le messager, comme dit Cheikh Al-Uthaymin ici, c'était difficile pour lui à ce moment-là de parler, soit parce que le prophète alayhi salam était occupé par l'évocation et l'imploration d'Allah Azza wa Jal. Aïcha a pris le siwak de son frère, a coupé la partie qui a été utilisée par son frère, puis il l'a ramolli par ses dents et l'a rendu tendre pour qu'il soit bon à utiliser. Et radiyallahu anha wa ardaha, il l'a donné au messager alayhi salam. Le prophète l'a utilisé d'une façon particulière. Il s'est bien nettoyé la bouche avec, pour se préparer à la rencontre de son souverain subhanahu wa ta'ala, pour le rencontrer avec une purification complète. Il dit qu'il a terminé le nettoyage de sa bouche avec siwak, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a levé sa main ou son doigt, demandant à Allah de le mettre avec la plus haute compagnie au paradis, et puis son âme est sortie, alayhi salatu wassalam. Aïcha radiallahu anha avait l'habitude de parler de cette grâce avec laquelle Allah l'a comblé. Le prophète, il est mort le jour de son tour, chez elle et entre sa poitrine et son menton. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni entre sa salive et la sienne au moment de sa mort, alayhi salatu wassalam, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Yaqulu Sheikh Al-Uthaymin, fawa'idu al-hadith, mahabbatu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La première des leçons à retenir du hadith, comment le messager alayhi salatu wassalam aimait fortement le siwak, salawatu rabbi wa salamu alayhi. ثانيا مشروعية السواك في كل وقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الرحمن بن أبي بكر عليه. aussi il est légiféré, la deuxième leçon il est légiféré qui sort de ce hadith, c'est qu'il est légiféré, il est recommandé d'utiliser siwak à tout moment, car le prophète عليه الصلاة والسلام a approuvé l'acte de عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. La troisième leçon, جواز التسوك بسواك غيره بشرط أن لا يخشى في ذلك ضرر. La troisième leçon qu'il faut retenir de ce hadith, il est permis d'utiliser le siwak d'autrui s'il n'y a pas le risque de contagion par une maladie. الدرس الرابع أو الفائدة الرابعة العمل بالإشارة إذا كانت مفهومة. Et la quatrième leçon, il est autorisé de répondre avec un signe quand le signe il est compris. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha l'a questionné, il a répondu avec le signe de la tête, oui. Et donc, il est autorisé de répondre et il est permis de répondre avec un signe quand le signe il est compris par les autres. الفائدة الخامسة قوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأشه حيث لم يذهل عن التسوك والدعاء حال الموت. La cinquième leçon à retenir, la force du cœur du prophète alayhi salatu wassalam et de son âme. Malgré l'agonie, il n'a pas laissé tasawuk ni l'imploration d'Allah. La sixième leçon, itbatu uluwillahi azza wa jal fi sama. La sixième leçon, la confirmation de l'élévation d'Allah au-dessus des cieux. Avec quoi? Le signe qu'il a fait alayhi salatu wassalam avec son doigt ou avec sa main. La septième leçon, الفائدة السابعة فضيلة عائشة رضي الله عنها بحسن معاشرتها النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته في حجرها وبيتها ويومها. Et la septième leçon, les mérites de عائشة رضي الله عنها et sa bonne manière. Les bonnes manières qu'il avait, radiyallahu anha, ou ardaha, avec le messager, alayhi salatu wassalam. Puis aussi, parmi les mérites de Aïcha, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est mort chez elle, le jour du tour de Aïcha. نأتي إلى الحديث الرابع في الباب, وهو الحديث العشرون في كتاب الطهارة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب, قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع. Donc on arrive au quatrième hadith du chapitre qui est le 20e hadith dans le livre de la purification. Le hadith, selon Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari a dit, je me rendais chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et le trouvais en train de se nettoyer les dents avec un siwak frais. Le siwak était sur le bout de sa langue, et il disait, salawatu rabbi wa salamu alayhi, comme le sang qui met celui qui a qui commence à, qui allait vomir. Rawi Abu Musa ibn Qais al-Ash'ari al-Qahtani radiyallahu anhu قدم مكة وأسلم ثم رجع إلى قومه وقدم في 50 منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عند فتح خيبر وكان حسن الصوت بقراءة القرآن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وشهد فتوح الشام ثم استعمله عمر رضي الله عنه على البصرة فافتتح الأهواز وأصبهان ثم عزله عثمان عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليها وتفقى به أهلها ومات فيها سنة 44. Et le rapporteur du hadith ici c'est Abu Musa al-Ash'ari ibn Qais al-Ash'ari al-Qahtani. Quand on entend le terme al-Qahtani, ce sont les purs arabes. Hein? Il est né, il est venu à la Mecque et il est rentré dans l'islam quand le prophète était encore à la Mecque. Et il est retourné chez lui et au moment de la conquête de Khaybar, hein, il est venu vers Médine avec 50 personnes de sa tribu qui se sont converties à l'islam aussi. Et il est venu avec eux chez le prophète alayhi salam. Abu Musa al-Ash'ari avait une belle voix quand il lisait le Coran, radiyallahu anhu wa arda. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a utilisé comme gouverneur sur le Yémen. Et quand le messager d'Allah est mort, il est venu à Médine et il a participé à la conquête du nord de l'Arabie, Cham, la Palestine, la Jordanie, etc. Omar a utilisé Abu Musa al-Ash'ari comme gouverneur sur le Basra, en Irak. Et quand il était gouverneur sur le Basra, il a fait la conquête de l'Ahwaz et d'Asbahan. L'Ahwaz qui est au sud, ouest de l'Iran. Et Asbahan, il est en Iran aussi. Donc il a fait la conquête de ces deux régions. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, lui a enlevé le gouvernorat de l'Basra. Puis, Abu Musa al-Ash'ari est allé à l'Koufa. Et Uthman l'a utilisé comme gouverneur à l'Koufa. Radiyallahu anhu majma'in. Les habitants de l'Koufa ont appris beaucoup de sciences avec Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu arda, et il est mort au long 44 de l'Hijr. Mawdou' al-hadith bayan mawdi' al-istiyak. Et donc ici le sujet du hadith, là il te montre l'endroit, un des endroits dans lequel on utilise siwak. شرح الكلمات أتيت النبي صلى الله عليه وسلم جئت إليه ولم يعلم متى كان هذا المجيء يستاك يدلك فمه بالمسواك على لسانه أي على طرف لسانه من داخل بدليل أنه يقول بضم الهمزة وسكون العين حكاية صوت المتقيئ في فمه يتهوع يتقيأ. الشرح الإجمالي للحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك ويبالغ في السواك أحيانا وفي هذا الحديث يخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجده يتسوك ويبالغ فيه حتى إنه ليضع السواك على طرف لسانه الداخلي فيسمع له صوت كصوت المتقيئ. Et le sens général du hadith, le prophète alayhi salatu wasalam, des fois il utilisait le siwak fortement. Comme dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, Abu Moussa annonce qu'il est venu voir le prophète un jour. Il l'a trouvé en train d'utiliser siwak et de le faire d'une façon forte, en mettant le siwak à l'intérieur de sa bouche, vers la fin de sa langue, hein, sur l'extrême fond de la de la bouche sur la langue. Il frottait. Et en même temps, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, ça provoque un bruit. Il émettait un bruit comme le bruit de celui qui allait vomir. فوائد الحديث مشروعية التسوق على اللسان كما يكون على الأسنان واللثة. Donc cela, la première des leçons à retenir du hadith, c'est que il est recommandé et que c'est légiféré de passer son siwak sur la langue et de frotter avec la langue comme il se fait sur les dents et la gencive. ثانيا مشروعية المبالغة فيه. La deuxième leçon, il est recommandé de le faire fortement et beaucoup de fois. ثالثا جواز التسوق والمبالغة فيه بحضرة الناس. La troisième leçon, il est permis de le faire et même de le faire fortement devant les gens. Ce n'est pas interdit le fait de faire d'utiliser siwak devant les gens et de le faire même fortement devant eux. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ou Moussa al-Ash'ari, les hommes de science comme le retient ici Cheikh, le stipule ici Cheikh al-Uthaymin, nous le dit à la fin. Il est venu le voir, il était en train de le faire fortement et d'y mettre ce bruit de celui qui allait vomir. Et tu remarques aussi une chose, maintenant dans ce monde moderne, avant, il y a quelques années en arrière, tu ne trouvais pas sur les brosses, le derrière de la brosse pour te brosser la langue. Maintenant, ils l'ont créé. D'où il tient? Tu saches que, comme il a dit Cheikh al-Uthaymin durant tous ses cours, que cette législation, elle est complète. Et que tous les moyens qui peuvent parfaire la purification de la personne, qu'il soit de son cœur ou de son corps, ils sont stipulés dans cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le musulman n'a besoin de personne, il n'a besoin de leçons de personne. Il lui suffit tout simplement de prendre le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salam et de les mettre en application selon la voie et la compréhension du pieux prédisseur d'Allah alayhim. Il sera comblé du bien dans ce bas monde et dans le delà aussi. ونأتي إلى الباب الخامس لعله الباب الخامس هو باب المسح على الخفين. Et on arrive au cinquième chapitre dans le livre de la purification qui est réservé à l'essuyage sur le خف, sur ce qu'on met au pied, qu'il soit en laine, qu'il soit en coton, qu'il soit en cuir ou en plastique, peu importe la matière. يقول الشيخ العتيمي رحمه الله عليه المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة حتى عد بعض الحفاظ رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا 80 منهم العشر المبشرون بالجنة. وقال الحسن البصري رحمه الله حدثني به 70 من الصحابة رضي الله عنهم وليس بين الصحابة فيه اختلاف وهو من الرخص الدالة على يسر هذه الشريعة ونفي الحرج فيها ولله الحمد. Et donc à ce niveau-là, Cheikh al-Uthaymin il dit au début de ce chapitre, l'essuyage sur le khuf, sur le khuffain, il est confirmé dans la pratique prophétique. C'est une sunna qui est rapportée par plusieurs compagnons et par plusieurs voies de transmission. Certains mémorisateurs de hadith relatent que les rapporteurs du hadith sont au nombre de 80. C'est-à-dire 80 compagnons. Hein? Parmi eux, les 10 compagnons à qui le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. Le Hassan al-Basri dit que 70 compagnons du prophète alayhi wa sallam lui ont rapporté qu'ils essuyaient sur le khouf, sur le khoufain. Hein? Donc sur le khoufain, dit Cheikh Al-Uthaymeen, il n'y a aucune divergence sur cet acte chez les compagnons. Abedan. C'est une autorisation qui prouve la facilité de cette religion, dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Dire que dans cette religion, il n'y a aucune gêne. Et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Fin de citation de ce qu'il a cité Cheikh Al-Uthaymeen. Donc le masah disait en arabe le fait de passer la main sur une chose. Ça c'est le masah en langue arabe. Passer la main sur quelque chose. Dans la terminologie de la religion, le fait de passer la main, les mains mouillées, sur un élément spécifique, pendant un temps délimité. Hein? Au moment de faire le dos. Et spécifique, la chose spécifique, c'est ce qu'on a dans les pieds. Hein? C'est ce qui couvre notre pied. Le khouf désigne, en langue arabe, tout ce que l'on porte aux pieds pour marcher, et dans la terminologie religieuse, ce qui couvre les pieds jusqu'aux chevilles. Ce qu'il voulait avec, toute chose qui couvre les pieds jusqu'aux chevilles. Peu importe la matière que, par laquelle il est. Hein? Les savants mentionnent ce chapitre après celui des ablutions, car c'est un substitut. Le masah est un substitut au lavage des pieds. Hein? Est un substitut du lavage, hein, qu'on va faire aux pieds. Hein? Et c'est une permission, c'est une autorisation, ce qui désigne, hein, rursa, qui désigne en arabe, une facilité. Hein, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymeen. Le messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, rapporté dans Sahih Targhib al-Tarhib, le Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah aime qu'on pratique ses permissions, tout comme il déteste qu'on commette ses interdictions. Il aime qu'on prenne les autorisations. Comme il déteste, subhanahu wa ta'ala, transgresser sa loi. Hein, de faire ce qu'il a interdit. Le premier hadith de ce chapitre, Mas'al al-Khufay, c'est le 20e hadith du livre de la purification. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. Et donc ce premier hadith dans ce chapitre qui est le 21e hadith du livre de la purification, c'est le hadith de Mughira ibn Shu'ba qui dit « J'étais en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand celui-ci, c'est-à-dire le prophète alayhi wa sallam, faisait les ablutions, je me suis baissé pour lui ôter le khuffayn, ce qu'il avait dans les pieds. Et il a dit alayhi wa sallam, laisse-les, car lorsque je les ai chaussés, mes pieds étaient en état de pureté. » Et il passa, une fois que le prophète alayhi salatu wasalam a terminé le dos, il passa les mains mouillées dessus. Le hadith est rapporté par Imam Bukhari ou Imam Muslim. Rawi al-hadith al-Mughira ibn Shu'ba ibn Abi Amir ibn Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu anhu. Aslama 'am al-Khandaq fahajar wa kana awwal ghazwatin shahidaha al-Hudaybiyah. Kana mimman yakhdumu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi wudu'ihi wa kana min duhat al-Arab. تولى على البصرة ثم تولى على الكوفة مرتين ومات فيها سنة 50 رضي الله عنه وارضاه. Donc le rapporteur du hadith c'est le Mughira ibn Shu'ba ibn Abi Amir ibn Mas'ud al-Thaqafi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Il est rentré dans l'islam l'année de la bataille des tranchées et il a accompli sa hijra vers Médine. Et la première bataille à laquelle il a assisté, radiyallahu anhu wa arda, celle de l'Hudaybiyah. Il était parmi ceux qui servaient le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lors de son oudou alayhi salatu wa sallam. Il était un génie parmi les génies arabes. Il a été gouverneur sur le Basra deux fois. Il a été gouverneur sur le Basra une fois et deux fois gouverneur sur le Koufa. Il est mort à le Koufa en l'an 50 de l'Hijr. يقول رحمه الله موضوع الحديث بيان حكم المسح على الخفين. Le sujet du hadith c'est le statut de l'essuyage sur le khuffain, sur tout ce qui se met au niveau des pieds. مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته ومعيته في سفر هو سفره في غزوة تبوك في رجب سنة 9 من الهجرة. فهويت انتحيت مادا يدي لأنزع لأخلع خفيه تثنية خف وهو ما يلبس على القدم ساترا لها من جلد ونحوه دعهما أتركهما أي القدمين أو الخفين أدخلتهما أي القدمين طاهرتين حال من الهاء في أدخلتهما وجملة فإني أدخلتهما تعليل لقول وجملة فإني أدخلتهما تعليل لقوله دعهما فمسح عليهما أمر يده على الخفين مبلولة بالماء. الشرح الإجمالي يحدث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره وهو سفره في غزوة تبوك وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في طهره ومعه إداوة ماء يصب منها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها. فلما انتهى إلى رجليه أهوى المغيرة بيده لينزع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل قدميه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتركهما معللا ذلك بأنه أدخل قدميه في خفيه وهما طاهرتان ثم مسح عليهما. Donc le sens général du hadith, le Mughira ibn Shu'ba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, rapporte qu'il était en voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ce voyage, c'était le voyage de la bataille de Tabouk. Et le Mughira était au service du prophète alayhi salam pour sa purification. Il avait avec lui un récipient avec lequel il versait l'eau au messager alayhi salam pour qu'il fasse alayhi salam ses ablutions. Et quand le prophète une fois, quand il versait l'eau au prophète alayhi salam pour faire ses ablutions, quand le prophète est arrivé pour les pieds, le Mughira ibn Shu'ba s'est penché pour enlever le khuffain des pieds du prophète alayhi salam. Pour enlever les chaussettes qui étaient au pied du prophète du messager alayhi salam, pour que le prophète alayhi salam puisse laver ses pieds. Mais le prophète lui a ordonné de les laisser et de ne pas les enlever. Et il lui a dit alayhi salam, la cause, le prophète lui a dit je les ai chaussés au pied après une purification. Et le prophète a essuyé sur le khouf. فوائد الحديث جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين ويقاس عليهما كل ما يستر الرجلين من الجوارب وغيرها. La première des leçons à retenir de ce hadith, la permission d'essuyer sur le khuf au lieu de laver les pieds, et par analogie tout ce qui se met aux pieds, chaussettes et autres, n'importe quelle matière, épaisse, pas épaisse, il y a un trou dessus ou il n'y a pas de trou, tu ne prends pas en considération. Du moment que ça couvre la partie qui doit être lavée. Et la partie qui doit être lavée, c'est cheville comprise. Donc du moment que c'est couvert, la partie qui doit être lavée, tu essuies dessus. Taniyan, أن المسح عليهما لمن كان لابسا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجل وهذا من كمال الدين الإسلامي وتيسر شريعاته. La deuxième leçon, l'essuyage est meilleur que le lavage des pieds Hein, pour celui qui les a au pied, qui les a rentrés après une purification, c'est meilleur pour lui. Hein? Et cela prouve la facilité de cette législation. Il prouve que la religion musulmane est parachevée à tous les niveaux. Hein? Et que c'est une religion d'aisance et de facilité dans laquelle le musulman n'a aucune gêne. ثالثا انه لا يمسح عليهما الا اذا لبسهما على طهاره. La troisième leçon, il est autorisé d'essuyer dessus que si on a rentré ses pieds après le dos. Je termine le dos et j'ai mis mes sockets ou là mes sockets en cuir ou là en nylon ou là n'importe après le dos. À ce moment-là, j'ai le droit d'essuyer dessus. Si j'ai pas le dos et j'ai et je mets les sockets et après je vais faire le dos, je vais essayer. Non, c'est interdit. Il faut rentrer les sockets et les mettre aux pieds, chausser les pieds avec, après une purification. Wa ad-darsu al-fa'idatu ar-rabi'a husnu khuluq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'limihi haythu mana'a al-mughira min khal'ihima wa bayyana lahu as-sabab annahu adkhalahuma tahiratayn litatma'inna nafsuhu wa ya'rifa al-hukm. La quatrième leçon, la bonne éducation et la bonne manière d'éduquer du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a empêché le mourir d'ôter ce qu'il avait au pied alayhi salatu wassalam, il lui a montré la cause pourquoi. Pour qu'il soit apaisé d'une part, et pour qu'il connaisse le statut aussi de l'essuyage, et pour qu'il connaisse le statut de cet acte. Il a dit alayhi salatu wassalam, je les ai chaussés en état de pureté. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Khamisan, fadilatul mughirati bi khidmati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, on y retient aussi les mérites du Mughira ibn Shu'ba, qui était au service du messager alayhi salatu wassalam. Et ceci, c'est un honneur. Sadisan, jawajul isti'anati bi ghayrihi fi at-tahara, ka ihdar al-ma' والصب على المتطهر ونحو ذلك. La sixième leçon, la permission d'aider autrui dans la purification par le fait de lui rapporter de l'eau ou même en lui versant de l'eau pour qu'il puisse faire ses ablutions. Tout ceci, on le retient de ce hadith du messager alayhi salatu wassalam. ونأتي إلى الحديث الثاني في الباب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه والحديث مختصر هنا. Et donc on arrive au deuxième hadith qui est le 22e hadith du livre de la purification, le deuxième hadith du chapitre. Hudhayfa ibn al-Yaman rapporte qu'il était avec le prophète عليه الصلاة والسلام et que celui-ci a uriné. Puis il a fait ses ablutions et il a terminé les ablutions par le fait d'essuyer sur le khuf. Le hadith, il est résumé ici. موضوع الحديث بيان حكم المسح على الخفين. Le sujet du hadith, l'éclaircissement sur le statut du fait d'essuyer sur le khuffain ou ce qui est similaire à le khuffain. شرح الكلمات كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في صحبته وكان ذلك في المدينة مختصرا أي محذوفا منه ولفظه تاما أي لفظ الحديث تاما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ وللبخاري في رواية ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ ولمسلم في رواية فمسح على خفيه. الشرح الإجمالي يقول الشيخ رحمه الله يخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في المدينة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته فأتى سباطة سباطة قوم خلف حائط فبال وتوضأ ومسح على خفيه وكان وضوءه بعد الاستجمار أو الاستنجاء كما هي عادته صلى الله عليه وسلم. Et donc le sens et l'expression complète de ce hadith la rapporte Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, le prophète est allé vers le tas de fumier et d'ordures de certains derrière un mur. Il s'est mis debout comme le fait l'un d'entre vous. Et Hudayfa dit, je me suis éloigné de lui. Et après il m'a fait signe, reviens par là. Et je suis venu vers lui et je me suis mis derrière lui, derrière le prophète alayhi sallam, jusqu'à ce qu'il ait terminé. Dans une version de l'Bukhari, et puis il a demandé de l'eau et je lui ai ramené et il a fait ses ablutions. Et dans la version de Muslim, il a essuyé sur le Khuffayn. Le sens du hadith, Hudayfa ibn al-Yaman rapporte qu'il était avec le prophète alayhi salam et c'était à Médine, pas en voyage. Le prophète voulait faire ses besoins et il était allé vers un tas de fumier et de saleté derrière un mur et il a uriné et a fait son odo et a essuyé sur ses khuffayn, sur ce qu'il avait aux pieds. Avant son odo, bien sûr, avant d'avoir effectué son odo, il n'y a aucun doute. Comme il a l'habitude de le faire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, soit il s'est essuyé, il est parti intime avec les pierres, soit il s'est lavé avec de l'eau. Hein? Même s'il n'est pas stipulé dans le hadith, comme le attire l'attention Cheikh rahmatullah alayh. Wa na'ti ila fawaid al-hadith. أولا جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين وهو من كمال الدين الإسلامي ويسر شرائعه. La première des leçons, la permission d'essuyer sur ce qui se met aux pieds, chaussettes, sockets, etc. Quand on a fait l'eau, quand on fait l'eau, au lieu de laver les pieds et d'enlever les sockets. Et cela prouve la facilité de la législation et que la religion est parachevée. Il est complété, khlas. Et l'essuyage ne peut se faire qu'une fois que nous avons rentré les chaussettes après un odo, après être purifié. La deuxième leçon, c'est que le fait d'essuyer sur ce qu'on a au pied, il est permis, hein, pas tout simplement en voyage. Même quand tu es chez toi, dans ta ville, en résidence, chez toi, à la maison, tu as le droit d'essuyer. Parce que certains lient l'essuyage avec le voyage. Là. C'est pour ça que Cheikh il attire l'attention ici, comme quoi il est permis, même quand tu es chez toi, quand tu es en résidence. Talitan jawaz qawl al-insan lil-rajul al-azim annahu bal. Et la troisième leçon, il est permis de dire d'une grande personnalité comme quoi il a uriné. Qu'est-ce qu'il a dit le Hudayfa de la meilleure des personnes, la meilleure des créatures? Bal. Hein? Enfin, ce n'est gênant en rien de le dire à quelqu'un, à une autre personnalité. وَهُنَا تَنْبِيهُ نَبِّهُ الشَّيْخ قَالْ جَاءَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْعُمْدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ وَلَكِنْ هَذَا خَطَأ فليس قوله في سفر ثابتا بل الثابت ان ذلك كان في المدينه. Et Cheikh nous rappelle un truc, dans certaines éditions de l'Umda, dans ce hadith il est stipulé que c'était en voyage, mais c'est une erreur. Cette phrase c'était un voyage n'est pas confirmée par les mémorisateurs du hadith. Ce qui est confirmé c'est que c'est à Médine. C'était pas en voyage, c'est que ça c'est l'histoire avec Hudayfa, c'est passé à Médine. Hein? Regarde. Hein? Les détails, les hommes de science ne mettent aucun détail pour que le jugement soit correct et qu'il soit clair. Et pour que, hein, la preuve soit mise à sa place. Et ça, c'est la minutie avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les hommes de science. Fa, on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا